Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
mille morts, plus de la moitié de la population déplacée. La guerre en Syrie dure depuis 7 ans. Notre correspondante à Berlin a interrogé l'historienne Leila Dahli sur la responsabilité de la communauté internationale et sur les difficultés de vérifier les sources d'information dans ce conflit aux multiples facettes.
On peut très clairement dire que Bachar al-Assad est un criminel de guerre. Ce n'est pas un abus de langage.
Dans la deuxième partie de ce magazine, nous reviendrons sur les 80 ans de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Willkommen, bienvenue. En mars 2011, dans la foulée des printemps arabes, les Syriens étaient eux aussi dans la rue pour réclamer plus de liberté à leur dirigeant Bachar al-Assad. Les manifestations sous la bannière « Pour une Syrie sans tyrannie » ont été violemment réprimées. Aussitôt, le régime a dénoncé une rébellion armée de groupes salafistes. La contestation s'est ensuite étendue jusqu'à basculer en rébellion armée. 7 ans plus tard, la guerre en Syrie est une tragédie humaine aux dimensions colossales, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Plus de 350 000 personnes ont été tuées depuis le 15 mars 2011, dont près d'un tiers de civils. Dans ce pays qui comptait environ 23 millions d'habitants avant le conflit, la moitié ont été contraints de fuir en raison des combats. Leila Dahli, historienne et spécialiste du monde arabe contemporain, détaille au micro d'Emmy Elio une situation devenue de plus en plus complexe au fil des années.
La révolte a été réprimée de manière tellement féroce et acharnée et de plus en plus systématique par le régime qu'elle a été remplacée par une lutte armée qui a pris de plus en plus la forme d'une guerre civile. Sur le terrain syrien, d'une guerre civile et d'une guerre qui implique un certain nombre d'acteurs internationaux ou régionaux dans le conflit.
Oui, et parmi ces acteurs, la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais qui soutiennent le régime de Bachar al-Assad. D'où vient une telle alliance?
Il faut reconnaître à César Bachar al-Assad, sa force et sa puissance dans cette histoire. C'est important parce qu'on a toujours tendance à dire oui, alors c'est parce qu'il est soutenu. Oui, il est soutenu, mais il a travaillé ses soutiens de manière extrêmement précise et extrêmement tactique. Évidemment, s'il a pu s'appuyer sur ce soutien-là, c'est bien que la Syrie a toujours servi de lieu intermédiaire, disons, comme le Liban, pour l'Iran, pour qu'il puisse exercer sa puissance de manière indirecte. Quant à la Russie, si on y regarde de près, la Syrie a toujours été sa porte d'entrée, disons, naturelle sur la Méditerranée. Des villes comme Alep étaient des villes d'implantation commerciales, touristiques, de toutes sortes, liées à la Russie, liées à l'ouverture sur la mer Noire, etc.
Alors, on vient de le voir encore récemment, la communauté internationale semble une fois de plus paralysée par la situation. Dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, le régime syrien et ses alliés mènent une offensive depuis plusieurs semaines, et cela malgré la résolution votée par le Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit un cessez-le-feu. Comment expliquez-vous, Leila Dahli, cette situation de blocage?
Plus la communauté internationale fait voter des résolutions, plus elle a énoncé des principes, plus elle a mis des lignes rouges, etc., et plus les forces en présence en Syrie se sont amusées à montrer toute la vanité de toutes ces déclarations de principes. On finit par s'interroger, au-delà du conflit syrien, sur la volonté de Bachar al-Assad, de ses alliés russes, etc., de montrer la nudité du roi ONU. On le sait sur le conflit israélo-palestinien depuis toujours. On ne peut pas avancer sur un conflit quand une des forces en présence est dotée du droit de veto.
L'Allemagne et la France ont fait pression sur Vladimir Poutine pour qu'il signe le cessez-le-feu. Les États-Unis, eux, ont mis la Syrie en garde contre l'utilisation d'armes chimiques. Est-ce qu'on peut imaginer que les Occidentaux ripostent?
Il y a eu un jeu de dupes à partir du moment où les Occidentaux, disons, ou plutôt ce qu'on peut appeler la communauté internationale, je ne sais plus comment appeler ça, donc cette coalition a laissé le terrain aux Russes, quand même, souvenez-vous, depuis 2015, là, ils se sont mis à bombarder, ils ont pris prétexte de la lutte contre Daesh, contre l'armée islamique, etc., pour y aller. Et comme on le sait, ils y sont allés d'abord et avant tout contre la rébellion des villes rebelles, à commencer par Alep, aujourd'hui la Ghouta, etc., etc. Il faudrait évidemment intervenir pour protéger les civils. Personne ne se donne pour mission de protéger les civils.
Alors, parler de la Syrie, cela implique parfois de le faire au conditionnel, face aux difficultés de vérifier les sources. Pourquoi est-il complexe de s'informer sur la réalité de cette guerre ?
La confusion sur l'information est entretenue autour de la Syrie. On a une propagande du régime qui est multiface. Il propage aussi toute une série de clés de lecture sur le conflit qui, petit à petit, se sont imposées. Nous autres, qui sommes des spécialistes de la région, nous avons vu sans cesse notre parole remise en cause depuis le début de ce conflit au nom d'une prétendue neutralité. Aujourd'hui, les sources qu'on a, elles sont vérifiables. On a la chance d'avoir tous les réseaux WhatsApp, Skype, etc. depuis le début, des correspondants, des gens qui ont des liens anciens avec la région et qui peuvent vérifier et recouper les informations. Et le travail qui a été fait de ce point de vue-là par tous les réseaux de soutien, j'allais dire à la rébellion, mais au départ à la rébellion et puis aujourd'hui simplement aux civils, a été absolument magistral. On peut très clairement dire que Bachar el-Assad est un criminel de guerre. Ce n'est pas un abus de langage. Il y a mille raisons de le dire.
C'était Leïla Dakhli, historienne et spécialiste du monde arabe contemporain, au micro de notre correspondante à Berlin, Amy Elio. Et l'UNICEF a alerté sur le sort des enfants dans le conflit syrien. Selon l'organisation onusienne, le nombre d'enfants tués dans la guerre a doublé en 2017 par rapport à l'année précédente. Près de 20 000 enfants ont perdu la vie dans le conflit depuis 2011. Retour en Europe pour la deuxième partie de ce magazine. L'Autriche a commémoré le 12 mars l'annexion du pays par l'Allemagne nazie. Un événement également connu sous le nom d'Anschluss et qui remonte à 80 ans, mais qui a aujourd'hui un écho très présent. Depuis les dernières élections d'octobre 2017, l'Autriche compte en effet plusieurs ministres du parti d'extrême droite FPÖ au sein de son gouvernement. Rappel historique du président Alexander von der Bellen lors de la commémoration de l'Anschluss à l'ancien palais impérial Hofburg de Vienne.
La Wehrmacht, l'armée allemande, est arrivée en une nuit. Mais ce n'est pas en une nuit que sont arrivées les violations de la démocratie, de la liberté et des droits fondamentaux, ainsi que la militarisation et la violence. Elles s'étaient lentement fait leur nid en Autriche.
Le 12 mars 1938, à l'aube, 200 000 soldats allemands entrent en Autriche, pays natal d'Adolf Hitler. Mais loin d'être considérés comme des envahisseurs, ils sont acclamés par les foules d'Autrichiens qu'ils rencontrent sur leur passage. En 1938, l'Autriche est à genoux. Le pays n'a pas été épargné par la crise économique. Et comme dans les pays voisins, le fascisme s'est imposé. Avec une particularité autrichienne tout de même, la religion catholique comme moteur idéologique. Longtemps considérés comme l'ennemi numéro un, les nazis autrichiens ont tenté de prendre le pouvoir en 1934 par un coup d'État manqué, au cours duquel le chancelier Engelbert Dollfuss est assassiné. Son successeur, Kurt von Schuschnigg, va préparer l'annexion du pays en se laissant dicter peu à peu la marche à suivre par Adolf Hitler. En juillet 1936, l'Autriche signe avec l'Allemagne un accord dans lequel elle se définit comme un État allemand, renonce à sa politique étrangère et amnistie les nazis autrichiens condamnés. Un mois avant l'Anschluss, en février 1938, Hitler veut imposer à l'Autriche un ministre de l'Intérieur nazi, Arthur Seyss-Inquart. Il lance un ultimatum au chancelier jusqu'au 15 mars. Kurt von Schuschnigg tente une ultime parade, un référendum prévu pour le 13 mars. La question demande au peuple s'il veut une Autriche libre et allemande, indépendante et sociale, chrétienne et unie. Le référendum du 13 mars n'aura jamais lieu. Hitler exige et obtient la démission de Schuschnigg. Et le 12 mars, les troupes allemandes entrent en Autriche sous les cris de joie de la foule. Jusqu'à sa condamnation à Nuremberg en 1946, Arthur Seyss-Inquart répétera qu'il n'a pas été celui qui a fait entrer les troupes allemandes en Autriche. Le 13 mars, il est pourtant aux premières loges pour accueillir Adolf Hitler à Vienne.
Au peuple allemand et au monde entier, j'annonce que le Führer et chancelier du Reich, Adolf Hitler, entre en ce moment même dans l'ancien palais impérial, protecteur de la couronne de l'Empire.
Hitler in der Krone des Reiches eingezogen ist.
Pour Hitler, l'annexion de l'Autriche est le moment de gloire tant attendu. L'artiste raté, qui a vécu un temps dans des foyers de sans-abri de la capitale autrichienne avant la Première Guerre mondiale, est de retour, qui plus est, par la grande porte.
Je peux ainsi annoncer à cette heure au peuple allemand la plus grande réalisation de ma vie. En tant que Führer et chancelier de la nation et de l'Empire allemand, j'inscris l'entrée de mon pays natal dans le Reich allemand.
Environ 300 000 personnes acclament Hitler à Vienne, soigneusement filmées par la propagande nazie. Mais ce que les caméras ne montrent pas, c'est la terreur menée dans le même temps par les milices envers les opposants et les juifs. Le premier convoi pour le camp de concentration de Dachau partira dès le 1er avril 1938. 80 ans plus tard, le gouvernement autrichien a annoncé son intention d'édifier à Vienne un monument portant les noms des 66 000 victimes autrichiennes du national-socialisme. Et le président van der Bellen a souligné l'importance de tirer les leçons de l'histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs.
Die Lehre, dass auch Demokratien anfällig für Populismus und Demagogie sind.
La leçon que les démocraties sont vulnérables à la démagogie et au populisme, que la discrimination est la première étape de la déshumanisation. La leçon que le racisme et l'antisémitisme ne disparaissent pas, mais continuent d'exister aujourd'hui à petite et grande échelle. La leçon enfin qu'il est important d'élever la voix au bon moment, clairement et sans équivoque, pour dénoncer toute idéologie qui enfreint la dignité humaine, et nous devons tous, vous et moi, affûter nos sens et rester vigilants pour reconnaître les signes annonciateurs.
Die allfälligen Zeichen an der Wand zu erkennen.
تذكر لما قلت لي انك راح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت.
Vue d'Allemagne, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, le magazine vous sera présenté par Hugo Flotatalon. D'ici là, vous pouvez réécouter ce numéro dans la médiathèque de notre site dw.com/français. Portez-vous bien. Tchuss.